Canal Académie. L'entretien de la semaine. Rencontre avec un académicien.
Votre cerveau détient-il les armes nécessaires pour survivre au tsunami numérique qui nous submerge ? Entre l'infobésité, les ciblages publicitaires, les théories du complot, les sollicitations surviennent dans tous les sens et se font de plus en plus envahissantes. Le cerveau est devenu une mine d'or pour les marques et les plateformes qui investissent des sommes considérables dans le neuromarketing pour gagner la bataille de l'attention et nous vendre, plus ou moins discrètement, leurs idées. Des techniques redoutables qui ciblent des zones très précises de notre cerveau. Et pour tenter de comprendre les mystères de notre encéphale, nous sommes très heureux de recevoir un éminent professeur de psychologie, Olivier Houdet. Bonjour.
Bonjour.
Merci de participer à l'entretien de la semaine. Vous êtes membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Vous êtes derrière des recherches pionnières dans leur domaine, qui articulent notamment la psychologie de l'enfant et l'imagerie cérébrale. Vous enseignez à l'Université Paris-Cité. Et nous avons la chance de vous recevoir, car vous publiez aux éditions Que sais-je, un ouvrage imposant qui peut être lu comme une synthèse de vos travaux. Comment résonne notre cerveau ? C'est le titre de l'ouvrage qui pose une vaste question, terriblement à propos à l'heure où nos cerveaux sont sursollicités. Et vous soulignez dans l'introduction que la société du 21e siècle est devenue très cognitive. Qu'est-ce que vous entendez par là ?
C'est la révolution numérique, et la révolution numérique véhicule des informations. Et donc, il y a toujours eu des informations dans le monde, mais avec une intensité incroyablement accrue, démultipliée au début du XXIe siècle, de la révolution numérique, ce qui fait que nos cerveaux sont bombardés d'informations à tout moment, et sans nécessairement hiérarchie entre les informations, une distinction de ce qui est le vrai et de ce qui est le faux.
Alors rentrons tout de suite dans le vif du sujet et partons de ce que nous connaissons. On a pris l'habitude d'opposer deux systèmes de pensée différents qui ont été renommés par le psychologue et économiste Daniel Kahneman, qui les a renommés système 1 et système 2. En quoi ces deux systèmes sont-ils différents ?
Alors d'abord, il faut ajouter que Daniel Kahneman, pour ses travaux sur système 1, système 2, a obtenu le prix Nobel d'économie en 2002. C'est le seul psychologue contemporain lauréat du prix Nobel. Et il a démontré, en observant ses propres étudiants, donc adultes, à Princeton, au MIT, que lorsqu'il les surprenait par des problèmes de logique ou de mathématiques, leur jugement était plutôt erroné, irrationnel, reposant sur des heuristiques trop rapides du cerveau, des heuristiques trompeuses. Et Kahneman en a déduit que nous étions adultes, pas si logique qu'on l'a longtemps cru, depuis Aristote, Descartes, Jean Piaget, mon maître au XXe siècle, on a longtemps cru ou fait le postulat d'une rationalité logique des humains adultes. Or, Kahneman a complètement brisé ce postulat, et notamment le postulat donc rationnel des agents économiques, d'où son prix Nobel en économie. Donc le système 1, en résumé, est très rapide dans le cerveau, ce sont les intuitions, qui très souvent sont bonnes, sont approximativement exactes, mais quelquefois aussi, parce qu'elles sont trop automatiques, nous trompent, comme les illusions d'optique, mais il existe aussi des illusions cognitives dans le cerveau. Et le système 2, c'est au contraire la logique, la rationalité. Et Piaget, que j'évoquais tout à l'heure, croyait que le système 2, donc la logique chez l'humain, se substituait progressivement au système 1 et aux intuitions qui disparaissaient tels des stades enfantins. Et au contraire, dans le cerveau, les deux coexistent toute la vie, d'où l'irrationalité possible, les décisions absurdes des adultes par défaut d'inhibition au profit du système 2, ce que j'ai appelé le système 3 de contrôle inhibiteur.
Effectivement, même adulte, en fait, Kahneman dit, alors là je me concentre uniquement sur Kahneman, dit que notre système de pensée rapide peut devancer notre système 2 qui est rationnel, analytique, et donc ça, même adulte en fait.
Non seulement il peut devancer, selon Kahneman, mais il devance assez systématiquement. Et moi-même, je suis arrivé dans le domaine de la psychologie à la fin du 21e, début du 20e siècle, j'ai voulu en avoir le cœur net, si vous voulez. Et donc j'ai repris les expériences de Kahneman ou des expériences similaires en imagerie cérébrale, donc en exploration du cerveau, et j'ai vu ces réseaux neuronaux de l'irrationalité du système 1 qui court-circuitaient en quelque sorte dans le cerveau la logique et la rationalité qui étaient bien là. Donc les adultes sont globalement, hein, après leur développement, l'école, etc., logique et rationnel, mais ils ne le sont pas spontanément dans leur jugement et raisonnement, ce qui est grave, en quelque sorte, comme problème. Donc j'ai vu cette compétition entre intuition et logique dans le cerveau humain, et j'ai pressenti, parce qu'étant spécialiste du développement de l'enfant, que quelque chose d'autre devait se développer, caractériser l'intelligence humaine, et c'est justement l'arbitre, la capacité dans le cortex préfrontal, à l'avant du cerveau, d'inhiber le système 1, pas tout le temps, quelquefois, et d'activer la logique et la rationalité qui, en fait, ne s'activent pas spontanément chez les adultes, d'où le monde aujourd'hui des infox, des fake news, de l'irrationalité, voire de la violence.
Effectivement, là, vous touchez au cœur de vos recherches, l'inhibition. Parce que pour résumer, donc nous avons ces deux systèmes qui s'opposent, ce système rapide, intuitif, spontané, et ce deuxième système qui est plus analytique, exact, raisonné. Vous dites que ces explications sont vraies, mais incomplètes.
Et donc absolument.
Vous avez découvert un autre système que vous avez appelé système 3, clin d'œil aux travaux de Kahneman. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que est ce système 3 ?
Alors, ce système 3 est celui qui, chez l'enfant comme chez l'adulte, permet de résister à une intuition lorsqu'elle est trompeuse. Et il y en a beaucoup. J'évoquais les illusions d'optique, mais il y a beaucoup d'exemples que je donne dans mon livre, des exemples à l'école, mais aussi des exemples dans la vie quotidienne où des biais cognitifs conduisent à une réponse rapide, mais erronée. Donc, peu à peu, et ça ne peut se faire que tout au long de l'enfance, de l'ontogenèse, du développement, il faut apprendre à l'enfant à prendre conscience de ses biais cognitifs. Ça ne suffit pas. Et quand il en prend conscience, c'est déjà beaucoup, il faut développer dans le cortex préfrontal les neurones inhibiteurs, des neurones à axones longs. Donc l'axone, c'est le tube qui sort d'un neurone et qui va donner des ordres à d'autres neurones ou réseaux de neurones. Et les ordres dans le cerveau, tous les physiologistes le savent. Par exemple, Jean-Pierre Changeux, notre confrère de l'Académie des sciences, le dirait aussi bien que moi. Les neurones sont soit inhibiteurs, soit activateurs. Simplement, les psychologues ont oublié, jusqu'à Kahneman, le rôle de l'inhibition quand on est dans le niveau, je dirais, cognitif. Or, cette inhibition, c'est la clé de l'intelligence. Voilà ce que j'ai découvert. Et on s'en rend compte aujourd'hui quand on voit combien, précisément, notre société est devenue un peu le monde est fou, désinhibé. Et ce qui manque tant chez les adultes, mais que l'on peut construire chez l'enfant, nous avons fait des coffrets pédagogiques, des jeux qui entraînent le cerveau à résister, c'est cette inhibition. Donc, je pense en effet que le monde d'aujourd'hui manque cruellement d'inhibition, c'est-à-dire de contrôle inhibiteur.
Mais il y a de l'espoir et on va en parler dans quelques instants.
Il y a de l'espoir.
Donc on a ces neurones inhibiteurs qui vont inhiber ce système 1 pour activer le système 2. Mais concrètement, qu'est-ce que la connaissance de ces neurones inhibiteurs, de ce système 3, va changer dans notre façon de comprendre le cerveau ?
Ah ben, ça change beaucoup de choses. D'abord, le cerveau, si vous l'observez en imagerie cérébrale, vous avez une image du cerveau. Ça peut être simplement son anatomie. Ce qui est intéressant, c'est l'IRMF, l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. C'est-à-dire qu'on voit le cerveau qui pense, qui résout un problème de logique, de raisonnement. Et donc, dans ce fonctionnement du cerveau, c'est-à-dire dans la façon dont les réseaux de neurones vont se connecter, eh bien, il y a plusieurs modélisations possibles. Soit ils se connectent sur un mode très rapide qui sera heuristique, automatique, qu'il faut utiliser parce que très souvent, la réponse rapide est sollicitée, surtout dans le monde d'aujourd'hui. Donc, c'est bien que le cerveau soit rapide, mais il faut, dans un certain nombre de cas aussi, qu'il ne soit pas trop rapide. Et c'est à ce moment-là que le système 3 intervient pour, en amont, avant même votre réponse, avant même votre jugement, bloquer dans le cerveau les réseaux de neurones de l'automatisme, ou de l'heuristique, c'est synonyme, pour activer celui de la logique et de la rationalité qui est construite par ailleurs. Donc c'est important, mais à tous les moments de la vie, dans nos décisions quotidiennes, à l'école, je vous donne quelques exemples, les jeunes enfants en classe, alors je fus instituteur, donc je le sais, si vous dites aux enfants en primaire un petit problème du type « Louise a 25 billes, elle a 5 billes de plus que Léo, combien Léo a-t-il de billes ?» Les enfants disent « Maître, maître, maître !» 30. Ils ont entendu dans le problème 25 plus 5, ils font 25 plus 5 égale 30. Ça, c'est l'heuristique. C'est l'automatisme surappris à l'école qu'après plus, on additionne et après moins, on soustrait. Or, ce problème nécessitait d'inhiber cette heuristique trop rapide pour activer un algorithme qui, en l'occurrence, est tout aussi simple, la soustraction. Il fallait, dans ce problème, vos éditeurs pourront réécouter l'extrait, il fallait faire 25 moins 5 égale 20. Mais on fait rarement une soustraction après avoir entendu le signe plus. Donc, voyez comment, à l'école même, l'inhibition du système 1 pour activer le système 2 est en amont de la réussite scolaire est en amont des réponses. Et je pourrais multiplier les problèmes. En français, dans la langue, souvent les enfants dans les dictées font l'erreur « je les mange », ils écrivent un « s » à « mange », parce qu'on a surappris qu'après « les », on met un « s ». Or, dans ce cas-là, on accorde le verbe « manger » avec le sujet « je » et on ne met pas de « s » à « mange ». Et je puis vous dire, pour avoir étudié tout cela, qu'à peu près dans tous les aspects du programme scolaire, lire, écrire, compter, jusqu'à raisonner, il y a des biais cognitifs comme cela qui se cristallisent dans le cerveau et qui, en fait, ont été construits quelquefois par l'école elle-même ou par les livres ou par les dispositifs pédagogiques. Et les professeurs, jusqu'à nos découvertes, n'avaient pas conscience de ces heuristiques qu'on appelle maintenant scolaire, mais qui existe aussi dans le monde économique et de la décision, comme Kahneman l'a bien démontré, ces heuristiques qui font que notre cerveau, le cerveau humain est un grand détecteur de régularité. Donc on détecte en permanence des régularités, comme après les, je mets un S, après plus on additionne, etc. Mais ces régularités nous sont très utiles, mais aussi nous trompent. Il faut qu'on n'ait pas intelligent, pas rationnel, qu'on rate à l'école ou qu'on rate dans les classements internationaux comme PISA qui compare les différents systèmes éducatifs dans l'OCDE. Eh bien, ce que je découvre est donc, je crois, tout à fait central pour la réussite scolaire, mais aussi la réussite professionnelle et notre survie, vous l'évoquiez en introduction, dans le monde numérique et de l'information aujourd'hui, où les infox et fake news font la loi. Or, cela repose sur des heuristiques de la crédulité, de l'affectivité, et ce n'est pas la logique, la rationalité du système 2.
Et la bonne nouvelle, c'est donc qu'on en a conscience maintenant de ces heuristiques grâce aux techniques d'imagerie cérébrale. Pourtant, certains philosophes, dès l'Antiquité, avaient déjà pressenti ce système 3. Platon, par exemple, disait qu'il y avait trois systèmes dans l'âme. Le désir qui correspond donc à ce système 1, la raison qui est le système 2 et la volonté qui correspondrait plus ou moins à ce système 3. Il a fallu des milliers d'années pour prouver cette intuition.
C'est souvent comme ça hein, dans l'histoire des idées et des sciences. Ce n'est pas si linéaire ou incrémental qu'on ne le pense. Je pense que l'histoire des sciences, comme d'ailleurs le développement cognitif de l'enfant, est dynamique et non linéaire. C'est-à-dire qu'il y a déjà des découvertes ou des intuitions, des présciences très tôt, puis elles disparaissent au profit d'autres paradigmes, d'autres théories, puis elles reviennent. Et c'est en effet le cas par rapport à Platon. Je le dis dans la partie historique de ce livre. Platon avait décrit ce qu'on appelle l'homotriplex, avec les trois systèmes que vous avez évoqués, qui correspondent très bien à, je dirais, la préscience philosophique de ce que j'ai pu découvrir avec mon laboratoire du CNRS à la Sorbonne, deux millénaires plus tard, en imagerie cérébrale. Mais il faut savoir que, je vous l'ai décrit en raccourci, mais le propre élève de Platon à l'Académie, Aristote, pensait d'abord que la pensée n'était pas dans le cerveau, mais dans le cœur. Il était cardiocentriste, il disait « le cerveau, c'est trop froid ». Platon avait bien compris que la pensée était dans le cerveau, mais il décrivait en effet trois systèmes que vous avez évoqués. Ensuite, on peut dire qu'après la Renaissance et au temps moderne, René Descartes a repris en quelque sorte la logique d'Aristote, donc le système 2, parce qu'Aristote non seulement croyait au cardiocentrisme, mais en plus Aristote croyait aussi par ailleurs à la logique. Et Aristote, on le sait, inventait les syllogismes pour lutter dans la Grèce antique contre les sophismes et les paralogismes, qui étaient nos fake news d'aujourd'hui, ou les biais cognitifs de raisonnement. Donc vous voyez, ces notions étaient déjà là. Mais Descartes a simplement repris d'Aristote la logique, la méthode, donc on va dire le système 2. Pascal, déjà, dont on va bientôt fêter les commémorations, voilà. Pascal avait le génie, je le dis dans le livre, de pressentir contre Descartes qu'il ne fallait pas un mais deux systèmes, ce qu'il a appelé l'esprit de géométrie pour le système 2, la logique donc, et l'esprit de finesse qui correspond au système 1 de Kahneman. Alors, en effet, moi je suis très optimiste parce que Kahneman était pessimiste, conclut son gros ouvrage chez Flammarion, système 1, système 2, en disant finalement, on ne peut pas débiaiser, on ne peut pas corriger les heuristiques erronées du système 1. Et il disait, c'est triste pour nous et pour les institutions qui nous gouvernent, disait-il. Et
mais
au contraire,
on peut travailler dessus.
Voilà, moi j'ai découvert, et c'est peut-être ma vocation d'instituteur, de psychologue du développement, c'est-à-dire de ce que l'on peut développer dans le cerveau humain, qu'on pouvait beaucoup travailler dessus. Et qu'au contraire, il fallait prendre conscience des biais, les inhiber, les entraîner à l'école. Et nous avons ainsi conçu des coffrets pédagogiques pour la classe, en maternelle, en primaire, des jeux pour la maison qu'on appelle flexigames, disponible justement pour être flexible entre ces systèmes. Et donc, au contraire, il y a de l'espoir, mais il fallait pour cela découvrir et inventer le système 3, qui est un levier pour inhiber le système 1.
Alors, avant de parler des solutions, je voulais qu'on continue à donner quelques exemples sur comment le défaut d'inhibition dans notre cerveau peut nous jouer des tours. Donc, vous avez cité à l'instant l'exemple du problème des billes qui est soumis aux élèves dans les écoles, mais on peut citer aussi d'autres exemple tout aussi concret dans la décision médicale, par exemple. Vous dites qu'on évalue les risques médicaux différemment selon notre capacité d'inhibition. Est-ce que vous pouvez donner des exemples ?
Absolument. Ma première conférence à l'Académie des sciences morales et politiques, lors d'une des séances, c'était dans une année sur la santé. On m'avait demandé le cerveau et la décision. J'avais pris ces exemples médicaux qui sont repris dans le livre. Si vous présentez à de jeunes médecins par rapport à une thérapie pour le cancer, deux cas de figure, et que vous dites, ben, dans un cas, si on applique telle ou telle thérapie, il y a 90% de chances de survie. OK, présente ce cas de figure. Et on dit, à un autre groupe de médecins, pour la même thérapie, il y a 10% de chances de mortalité.
Ils ont trouvé que c'est énorme.
Ils trouvent que c'est énorme. Hein. Ils déconseillent, au moins pour la moitié d'entre eux, la thérapie où il y a 10% de risque de mortalité. Et à l'inverse, lorsque c'est exprimé en termes de 90% de chances de survie, ils recommandent assez majoritairement la même thérapie.
À 84%.
Voilà, vous avez les chiffres exacts qui sont dans mon livre. Or, mathématiquement, en termes de probabilité, ces deux cas de figure sont évidemment strictement identiques du point de vue logico-mathématique. Or, des personnes très cultivées qui ont fait toute une scolarité, qui sont en fin d'études de médecine ou des médecins qui exercent déjà, font cette erreur et qui paraît effroyable eu égard à la logique d'Aristote, de Descartes, de Piaget qui a repris la logique de Descartes au XXe siècle, considérant qu'elle se développait stade par stade chez l'enfant, eh bien, ces enfants devenus de grands médecins vont être capables de faire une telle erreur de jugement de probabilité. Et je pourrais vous en citer beaucoup d'autres.
Donc si on résume, avec la présentation de ce système 3, de cette inhibition qui régule notre cerveau, la définition même de l'intelligence se retrouve changée. En fait, être intelligent, c'est fortement lié à cette capacité d'inhibition. C'est savoir penser contre soi-même, pour résumer.
Quand vous pensez trop rapidement, c'est le système 1, c'est-à-dire vos automatismes, vos heuristiques rapides qui dominent. Par exemple, l'enfant qui dit « Ah, maître ou maîtresse, ça fait 30 », il pense très vite. Mais il devait penser contre lui-même, c'est-à-dire arrêter dans sa tête ou dans son cerveau la réponse « Après plus, j'additionne donc 30 » pour faire 25 moins 5 égale 20. Donc tous les exemples de biais de raisonnement, soit on les laisse passer dans notre réponse, soit on les bloque mentalement, et c'est ça, penser contre soi-même. Et notre plus grand ennemi est l'ennemi intérieur. Jean d'Ormesson disait, sont très belles dans l'un de ses livres, et je le cite à cet égard, il disait « penser », et mettait après entre virgules « vraiment », »,« penser vraiment », c'est penser contre soi-même. Et moi qui découvrais à ce moment-là le système 3, le contrôle inhibiteur dans le cortex préfrontal, je me suis dit, par son intelligence littéraire, il avait tout compris, c'est en effet penser contre soi-même. Et en termes neurophysiologiques, c'est déclencher ces réseaux et ces neurones inhibiteurs du cerveau qui permettent au cerveau d'inhiber l'une de ses parties en train de fonctionner. C'est vraiment le contrôle de soi, mais au niveau du cerveau. Et après les exemples que l'on a pris, scolaires ou médicaux, on comprend l'enjeu. C'est qu'il ne suffit pas, comme on l'a fait pendant des siècles, qu'à l'école, on répète la logique, on répète le programme, on répète les notions. Donc ça, c'est de l'activation, de la suractivation, de l'accumulation. Il faut tout autant apprendre à inhiber, donc l'inverse de l'activation, inhiber les biais cognitifs et les automatismes du cerveau qui sont aussi, dans beaucoup de cas, construits par l'école, par le milieu, par l'environnement. Je donne un exemple dans le livre. Si on apprend aux petits à l'école maternelle la suite des nombres de 1 à 10, donc 1, 2, 3, etc. jusqu'à 10, en général, vous vous souvenez sans doute de ça, Marie-Cathelin, à l'école, on mettait 1, par exemple, des animaux, une girafe, 2, deux hippopotames, 3, trois crocodiles. C'est fait soit avec des animaux, soit avec des fruits, soit avec des jetons dans le monde entier. Le cerveau de l'enfant apprend, évidemment, la suite des nombres dans le langage, ce qui est très important. Mais comme il détecte aussi les régularités, il détecte que longueur est égale à nombre, que plus l'alignement est grand, plus le nombre est grand. Or, si vous présentez, comme l'avait fait Piaget, un enfant d'école maternelle, 6 jetons resserrés et 6 jetons écartés, et que vous lui dites « Est-ce qu'il y a plus de jetons dans l'un des deux alignements ?», il répondra aussi vite que la question « Ah ben oui, tu vois bien, il y en a plus là parce que c'est plus long ». ce qui n'est pas du tout une réponse mathématique. Or, l'enfant est déjà capable de compter. Il a donc l'algorithme du comptage et le système 2, mais il est incapable d'inhiber cette heuristique, cet automatisme surappris inconsciemment, selon lequel longueur est égale à nombre. Et dans notre environnement, à tout moment, vous aussi, vous utilisez encore cette heuristique longueur égale nombre. Hein, au supermarché, sur deux rayons, qu'on appelle d'ailleurs des linéaires, à type de produits égaux, si un alignement est plus long sur une ligne, sur un rayon que sur l'autre, vous dites qu'il en reste plus. C'est vraiment une heuristique. Le problème, c'est que c'est ce qui induit l'enfant en erreur pendant des années, où il répond, il y en a plus là parce que c'est plus long, alors que le nombre est strictement identique. Par ces exemples, on voit que c'est vrai de tous les âges, mais puisque c'est aussi vrai chez l'enfant, on peut donc éduquer à partir de ces erreurs, l'erreur est positive, hein, c'est une pédagogie de l'erreur, éduquer cette inhibition chez l'enfant sans lui répéter le système 2 qui ne pose pas problème.
Mais alors oui, rassurez-nous Olivier Houdet, si on présente un contrôle de soi peu développé, avec une faculté donc d'inhibition qui n'est pas capable de calmer notre système 1, est-ce qu'on peut la corriger en s'entraînant avec des exercices pratiques
on peut la
quand on est enfant et adulte?
Ah oui. Voilà,
c'est peut-être différent.
C'est une nuance importante.
Oui.
On peut toujours la corriger chez l'adulte. Si vous visitiez mon laboratoire à la Sorbonne, du CNRS, vous verrez, il y a des belles planches du cerveau où on voit chez un même adulte, un même élève, le cerveau qui bascule en quelque sorte d'un réseau neuronal qui est à l'arrière, postérieur vers l'avant, antérieur le cortex préfrontal. Et on a pu montrer chez les élèves, adolescents ou adultes, qu'on pouvait les amener à inhiber le premier système pour activer l'autre. Donc, par une, ce que j'ai appelé une neuropédagogie, on peut toujours entraîner le cerveau de l'adulte à inhiber ses propres biais. Et je puis vous dire que des biais, il y en a aussi chez les polytechniciens, par exemple, qui peuvent être illogiques. On peut toujours faire cela, mais évidemment, c'est tard, il est très tard. Et c'est dès l'école et dès le plus jeune âge, même chez le bébé, il y a déjà des dispositifs à travers les gestes, la motricité, on peut lui apprendre le contrôle inhibiteur. Et donc, c'est une petite révolution de l'école que je propose avec cela. Et je puis vous dire qu'on travaille déjà avec beaucoup d'écoles volontaires, des plateformes numériques d'expérimentation, et les profs ne s'y sont pas trompés. Ils ont d'abord reconnu les erreurs que faisaient leurs élèves et ont mieux compris les raisons de l'échec. Et on fait avec les profs une cartographie des heuristiques scolaires. Et après, on apprend à les inhiber, à les bloquer par des petits jeux en classe tous les jours. Et j'ai moi-même, avec mon laboratoire, conçu et puis commercialisé avec l'éditeur Nathan des boîtes et des jeux. Donc, il y a de l'espoir et il y a les outils de l'espoir.
Ouais. Il y a de l'espoir, mais le défi tout de même semble assez impressionnant. Prenons les images. Par exemple, aujourd'hui, elles conditionnent beaucoup, même énormément, nos loisirs, nos passe-temps, les séries, les reels sur TikTok, les stories sur Instagram. Or, ces images stimulent particulièrement notre pensée rapide, notre système 1, plus que d'autres types de simulations. Est-ce qu'on ne pourrait pas penser que ces stimulations sont devenues aujourd'hui presque trop fortes pour notre cerveau ?
Une fois de plus, mon message est néanmoins pessimiste, mais ce que vous dites est exact. Les trois systèmes que j'écris, vous l'avez rappelé, toujours existaient. Déjà Platon, si on part aux origines de la philosophie de notre culture occidentale, décrivait un homo triplex qui a complètement été oublié ensuite et qui réémerge uniquement maintenant avec mes propres travaux. Mais ces trois systèmes ont toujours existé. Ce qu'il y a de nouveau, c'est que la révolution numérique du début du XXIe siècle a amplifié l'activation du système 1. Et en effet, le neuromarketing que vous évoquiez en introduction nous entraîne, nous enferme dans nos choix précédents, éventuellement dans nos décisions très émotionnelles. Or, ce renforcement, si vous voulez, du système 1 par le numérique, c'est ça qui crée le problème. Alors, je ne pense pas du tout qu'il faille supprimer les écrans, mais il faut apprendre à bien utiliser son cerveau face aux écrans et à la folie du monde informationnel. Et on peut le faire. On a un lobe entier, le cortex préfrontal, qui le permet. Mais vous comprenez que si ce lobe n'a pas été éduqué à l'école dans les termes qu'on vient de décrire dans notre conversation, il ne sera pas très robuste. Et donc, je pense que le cerveau humain peut avoir une robustesse beaucoup plus grande que celle qu'il n'a aujourd'hui. Et le phénomène des fake news nous fait vraiment à tous comprendre le problème parce qu'elle touche à la partie crédule de notre cerveau, émotionnel, basique. Or, il faudrait au contraire réveiller des émotions plus subtiles que j'appelle intellectuelles, comme le doute, le regret ou la curiosité. Et ce sont ces émotions subtiles, contrefactuelles, qu'on peut aussi appeler cognitives, qui vont guider l'inhibition dont on parle. Il faut douter de soi pour inhiber un automatisme. Il faut être regretté ce que l'on a répondu. Il faut être curieux de pouvoir répondre autrement. Et ces émotions, elles manquent dans notre société. Et face aux écrans, face à la révolution numérique, il faudrait davantage ces trois émotions. Or, en effet, le marketing, les algorithmes de moteurs de recherche nous enferment dans nos choix précédents. Donc, nous incitent à faire exactement l'inverse de ce que je préconise.
Vous parlez d'émotion, ça peut sembler étonnant parce que vous dites effectivement là, que c'est très important pour le professeur de transmettre des émotions positives aux élèves parce que, vous venez de le dire, les émotions sont fondamentalement clés à l'intelligence et à l'inhibition. Ça peut sembler paradoxal parce qu'on peut associer les émotions à la spontanéité, au système 1.
Il y a, si vous voulez, deux grandes catégories d'émotions. Il y a les émotions basiques qui sont totalement associées au système 1. La peur, le plaisir brut... Ça, ce sont les émotions que Kahneman avait bien décrites aussi. Vous savez, l'exemple qu'on a vu tout à l'heure en médecine avec le taux de mortalité ou de survie, c'est ce qu'on appelle l'effet du cadre émotionnel. Là, c'est la peur de la mort.
Une peur primaire.
Primaire, émotion primaire, qui fait que les médecins, pourtant rationnels, se trompaient. Eh bien, ces émotions-là, elles nous enferment dans le système 1. Ce sont celles qui sont énormément véhiculées sur les réseaux sociaux, dans le monde numérique. Vous savez que quand on clique, en général, on like. Et on like tout le temps, mais ça s'entraîne notre système 1. Like, c'est l'affect, l'heuristique de l'affect. Ce n'est pas la logique plus froide et la rationalité. Donc, ce qui est une vraie problématique contemporaine, c'est qu'on suractive tout le temps, hein, via nos smartphones, etc., le système 1. Or, il faudrait aussi l'inhiber, cliquer moins vite, réfléchir et prendre le temps de décliner notre système 2, qui, je pense, existe, la logique et la rationalité, mais qui est, c'est un vrai problème, très peu utilisé.
Alors effectivement, on ne va pas supprimer les écrans ni les réseaux sociaux. Vous parliez d'éducation. Est-ce qu'il faut mettre dans les programmes scolaires des cours pour développer son intelligence à côté des cours de français, de géographie ?
Certainement. C'est un peu ce qui s'appelle apprendre à apprendre, mais c'est un peu encore une coquille vide dans les programmes scolaires. Et je crois aussi qu'il faut informer les enfants dès le plus jeune âge sur leur propre cerveau, leur machine à apprendre. J'ai écrit avec mon collègue Grégoire Bors des livres pour les maternelles, dont l'un chez Nathan qui s'appelle « Explore ton cerveau ». C'est un livre que vous ouvrez, des grandes pages en trois dimensions, on voit le cerveau qui se déplie, et tout est exact, neuroscientifiquement exact. Un autre livre pour l'école primaire, 32 questions-réponses, ce sont à chaque fois des collections encyclopédiques qui existaient. Pour les enfants, je prends l'exemple du Kididoc sur le cerveau, il en existait un sur l'espace. Et ça m'amuse beaucoup parce qu'il n'en existait pas sur le cerveau et ça m'a fait penser pour l'histoire des sciences à Newton qui, après avoir découvert ses lois sur l'espace, avait dit aux philosophes, aux psychologues de l'époque, « Bon, nous avons découvert les premières lois sur l'espace, à vous maintenant de découvrir les lois de l'esprit. » Je le dis aussi dans mon intro. Voilà, dans cette collection Kididoc, il n'y avait encore aucun livre sur le cerveau humain et sur l'esprit. Donc, il est grand temps d'informer les enfants de ces découvertes et ils sauront quoi en faire. Avec leurs moyens à eux, ils y penseront. Et déjà, quelquefois, des professeurs des écoles nous disent « Les enfants ont lu votre livre, ils commencent à jouer au jeu aussi. » Et ils nous disent, quand ils se trompent dans une situation, « Oh, mais madame ou monsieur, c'est pas moi, c'est mon cerveau. » C'est amusant, mais au moins, ils prennent conscience du fait que leurs réponses c'est et leurs apprentissages dépendent de cette extraordinaire machine. Je rappelle, le cerveau humain, 86 milliards de neurones, 1 million de milliards de connexions. C'est infiniment plus complexe que les systèmes dits d'intelligence artificielle aujourd'hui et les cerveaux numériques. Et donc, il faut informer les enfants de ce potentiel qu'ils ont. Et ce cerveau, c'est le jardin de leur intelligence.
Donc le cerveau, l'inhibition et donc les émotions qui, si on vous suit bien, sont régulatrices et essentielles à notre intelligence. Mais donc si, effectivement, on vous suit, ça signifie que l'intelligence artificielle n'est pas intelligente puisque, par définition, elle n'a pas d'émotions.
Oui, voilà, on peut dire ça. Alors, on a parlé des émotions de base tout à l'heure qui nous guidaient dans le système 1. Le système 2, donc, est sous-tendu par des émotions de second niveau, contrefactuelles, qui vont contre les faits habituels, d'outre-gré curiosité. C'est très fort, cela, dans le cerveau, ce guidage émotionnel de l'intelligence via le contrôle inhibiteur. Les machines, ordinateurs, quels qu'ils soient, sont plutôt normalement conçus de type système 2. Ce sont des algorithmes. Donc, ils devraient, sauf bug dans l'algorithme, toujours bien réussir.
Et
le
pourtant...
problème, c'est que l'intelligence artificielle d'aujourd'hui repose sur ce qu'on appelle le big data, des grandes bases de données qui elles-mêmes sont construites par du codage humain. Et comme ce sont des grandes, grandes bases de données, des dizaines de milliers, voire centaines de milliers d'images et de mots, cela amplifie, parce que les mécanismes sont statistiques, cela amplifie les biais cognitifs et humains que je décrivais tout à l'heure. Donc, l'intelligence artificielle doit apprendre à se contrôler elle-même. Avoir son propre système 3. C'est pourquoi je dis dans le livre, il faudrait coder le cortex préfrontal dans les ordinateurs. Et avoir son propre système 3, ça veut aussi dire ressentir les émotions d'outre-gré curiosité, qui permettent d'inhiber, par exemple, une réponse massive qui viendrait d'un algorithme d'une base de données, mais qui est erronée. Je rappelle que les grandes entreprises des GAFA ont parfois supprimé en 24 heures des chatbots, donc des robots conversationnels qu'ils mettaient en marche et qui, en moins de 24 heures, devenaient racistes, misogynes, etc., et véhiculant tous les stéréotypes, donc les biais du système 1 des humains. Donc, il manque ce contrôle inhibiteur. Alors, moi, je crois en la science et en la technologie, donc peut-être que les informaticiens parviendront
un jour à
coder, à simuler certaines émotions. On sait qu'il y a des boucles de rétropropagation, de correction de l'erreur, donc un système pourrait, informatique, douter de lui, être curieux d'autre chose, mais le cerveau humain est infiniment plus capable que cela de ça. Donc, il y a énormément d'espoir. L'intelligence humaine est loin d'être rivalisée par l'intelligence informatique, sauf sur des aspects purement statistiques, bases de données, à condition de bien l'éduquer, cette intelligence humaine, et en ne faisant que renforcer le système 2, c'est-à-dire la logique, qui elle-même n'a pas la force d'inhiber le système 1, on passe à côté de la part essentielle aujourd'hui de l'éducation du cerveau et des enfants. Et
effectivement, à vous lire, enfin, en tout cas, votre livre vient mettre à plat un petit peu les arguments des personnes qui prédisent une guerre entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. Pour vous, cette question n'a pas vraiment lieu d'être.
Non. Et en général, les commentateurs, essayistes ou journalistes qui disent cela ne sont ni spécialistes du cerveau humain, de la psychologie, ni réellement spécialistes de l'intelligence artificielle. Lorsque je dédicaçais mon livre lors des Journées du patrimoine, il y a peu de temps, à l'Institut de France, j'ai rencontré le directeur d'une grosse boîte d'intelligence artificielle qui l'avait déjà lu, donc qui avait tout compris. Il avait parfaitement compris les distinctions que l'on fait. Il reconnaissait lui-même ce que je viens de dire à l'égard des systèmes artificiels qui sont tout à fait loin de rivaliser l'intelligence humaine au sens que l'on a défini. Et il me disait, mais quelle est selon vous la limite? Alors, je lui disais, ce sont ses émotions. Et lui me disait, oui, moi, c'est ce que j'appelle l'utilité. Qu'est-ce qui est utile? Donc, qu'est-ce qui a un but pour ces systèmes-là de façon autonome? Et évidemment, il n'y en a pas.
Dans le cadre des débats sur l'intelligence artificielle, on parle beaucoup des algorithmes. Et là, je voulais faire une petite parenthèse historique, parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, le terme algorithme n'a pas été inventé aux États-Unis dans la Silicon Valley. Le mot a été inventé au 9e siècle, vous nous apprenez ?
Tout à fait, par un savant perse dont le mot algorithme était, c'était un peu reformaté dans notre langue, mais était son nom propre. Et en effet, c'est un savant perse,
magistrat. Al-Khwarizmi.
Voilà, logicien, mathématicien qui avait forgé, il avait traduit ce qu'on appelle un livre très connu des mathématiciens, le calcul indien, hein, parce que les mathématiques viennent de l'Asie. Il avait traduit ce livre des calculs indiens et il était tellement connu pour cette formalisation qu'il transmettait en Europe, dans le monde de la pensée européenne, du calcul, que son nom propre, c'est-à-dire algorithme, qui reste toujours une forme de calcul, a été dédié à cela, et on croit en effet que c'est l'intelligence artificielle qui a forgé ce terme, pas du tout. C'était celui d'un savant perse qui permet aussi quelquefois de bien remettre les choses à leur bonne place.
Effectivement, et les algorithmes n'existent pas donc que sur des tablettes numériques, mais aussi sur des tablettes d'argile.
Voilà.
Depuis quelques années, le nombre de publications scientifiques, d'ouvrages, d'essais sur l'intelligence artificielle explose. Beaucoup de scientifiques prennent la parole sur le sujet, Serge Habitboul de l'Académie des sciences par exemple, Gilles Dewec pour n'en citer que deux. Est-ce que vous trouvez que les psychologues ne prennent pas assez la parole sur le sujet?
Absolument. Alors les deux que vous avez cités sont extrêmement sérieux. Je les respecte, des confrères de l'Académie des sciences, et je cite leur livre au pommier, si mes souvenirs sont exacts, qui s'appelle « Les algorithmes » et qui est tout à fait excellent. Il y a d'autres essayistes dont je ne citerai pas les noms pour ne pas polémiquer, mais qui disent tout et n'importe quoi sur le sujet. Alors ce qui me semblait, c'est qu'aucun psychologue de l'intelligence chez l'enfant n'avait encore pris la parole. Et c'est pourquoi j'ai ajouté dans ce livre cette dernière partie sur l'intelligence, dans tous les sens du terme, qui est à la fois humaine et artificielle. Et cette voie-là de la psychologie de l'enfant était muette. Je suis pas de nature à ne pas m'exprimer. Donc j'ai voulu très clairement parler de cela. Et c'est en effet l'avant-dernière partie du livre, avant un lexique général qui sont les 100 mots de la psychologie d'aujourd'hui.
Alors vous, effectivement, vous la prenez, la parole, à travers ce livre. Et ce que les auditeurs savent maintenant, puisque vous l'avez rappelé au cours de l'entretien, c'est qu'avant d'étudier la psychologie, vous avez été instituteur. Et l'école, l'éducation a toujours été un des fils rouges de vos recherches. En 2018, vous affirmiez dans une tribune signée dans Le Monde que le cerveau était l'angle mort de l'éducation nationale. à vous entendre aujourd'hui, c'est toujours un peu le cas.
L'angle mort de l'éducation nationale et puis, comme je vous disais, de la culture en général, des livres pour enfants aussi. Alors, on corrige et on corrige à toute vitesse puisqu'on a publié ces livres pour enfants à ces dates-là, aux dates que vous évoquez, entre 2018 et 2023 maintenant. Oui, ça reste partiellement un angle mort parce que, si vous voulez, l'éducation nationale manipule ce que j'appellerais les entrées, donc ce qui va rentrer dans la boîte noire du cerveau, comment on organise la pédagogie, comment on organise la vie scolaire, la structure de l'école, donc tout ce qui va formater l'entrée dans la tête de l'enfant, les programmes scolaires, voilà, on travaille beaucoup sur les programmes, les sorties de cette boîte noire, la réponse à l'examen, au contrôle, les classements PISA internationaux, les classements que font les services statistiques du ministère, les mesures. Donc, on travaille sur les entrées et les sorties. Et entre les deux, ce qui se passe dans la tête de l'élève, à part ce que l'on peut supposer, mais les pédagogues ou les psychologues supposaient comme les médecins à l'époque de Molière, c'est-à-dire sans trop savoir ce qui se passait dans le corps, on supposait ce qui pouvait éventuellement se passer dans le cerveau, et encore le cerveau restait un gros mot. Au contraire, aujourd'hui, on a ouvert la boîte noire grâce à la révolution de l'imagerie cérébrale fonctionnelle, à la modernisation, je dirais, de la psychologie de l'enfant que j'ai pu conduire en France avec ces technologies. Et sachez que la psychologie dont je parle est vraiment scientifique. Hein. Elle applique des paradigmes expérimentaux, des conditions expérimentales, des conditions contrôle, des pré-tests et des post-tests qui se passent avant et après un apprentissage dans le cerveau. C'est la méthode expérimentale de Claude Bernard appliquée aux neurosciences de l'enfant aujourd'hui. Eh bien, on ouvre la boîte noire. Alors, l'éducation nationale, une fois qu'ils ont entendu une conversation comme la nôtre, une conférence, ils sont très, très réceptifs parce que là, ils se disent « les neurosciences m'apportent vraiment quelque chose de nouveau ». Sur le cerveau. Il ne s'agit pas juste de dire qu'il faut apprendre le béaba à l'école et que c'est démontré dans le cerveau. Il faut avoir une approche beaucoup plus riche des erreurs, de la rationalité, de l'irrationalité, même si c'est vrai qu'il faut apprendre le béaba par ailleurs. Mais là, les profs se rencontrent et puis participent. Moi, je fais de la science participative et les profs eux-mêmes détectent des heuristiques, essayent d'entraîner le contrôle inhibiteur, apprennent les régions du cerveau, tout comme les enfants les apprennent en même temps dans les livres pour petits. Donc, on est en train d'ouvrir cette boîte noire.
Un élan collectif.
Un élan collectif. Et je crois vraiment que c'est l'une des seules et encore rares marges de progrès de nos sociétés.
J'avais quelques questions de fin, Olivier Houdet. Vous avez été élu en 2018 à l'Académie des sciences morales et politiques, qui est donc l'une des 5 académies accueillies à l'Institut. Et dans ce livre, vous faites un commentaire sur le nom de cette académie, des sciences morales et politiques. Alors, sciences politiques, on voit à peu près tous ce que cela recouvre. Sciences morales, en revanche, c'est un peu plus compliqué. Et vous, vous dites dans ce livre qu'il y a une dimension psychologique dans ce terme « moral ».
Absolument. C'est sans doute pour ça que j'ai été élu lors de ma campagne pour être élu, puisque vous savez qu'on réalise des visites comme à l'Académie française quand on veut rentrer à l'Académie des sciences morales et politiques. Je disais aux confrères et aux consoeurs, écoutez, je pense qu'il y a à l'Institut de France un trou, au sens d'un trou, épistémologique. Il n'y a pas de psychologie. Or, déjà Cabanis, par exemple, qui était médecin, l'un des membres fondateurs de l'Académie des sciences morales et politiques, disait, je le cite dans le livre, que la psychologie est absolument indispensable aux médecins comme aux moralistes, parce que c'est l'homme intérieur qui déclenche, qui précède l'homme extérieur. Donc, évidemment, cette dimension psychologique est essentielle tant à la morale qu'à la politique, puisqu'on a parlé de la prise de décision. Mmh. Et mes confrères et consoeurs ont eu la grande sagesse de le comprendre, de le reconnaître. Et avec mon ancrage, comme vous l'avez compris, très scientifique aussi, et neuroscientifique, eh bien, cela me permet d'être à l'interface entre l'Académie des sciences morales et politiques et l'Académie des sciences, sachant que les sciences morales et politiques correspondent à ce que l'on connaît par ailleurs dans la société d'aujourd'hui comme étant, dans l'université, les sciences humaines et sociales. Eh bien, on peut faire un pont avec des sujets comme la psychologie entre ces sciences humaines et sociales et par ailleurs les sciences naturelles et médicales dont les neurosciences sont un des domaines les plus actifs aujourd'hui.
Un grand merci à vous, Olivier Houdet, pour cette présentation limpide de votre livre. Pour les auditeurs qui souhaitent approfondir en direct avec vous le sujet, je rappelle que vous serez en dédicace à la librairie de l'Institut
le mercredi 11 octobre, en fin d'après-midi.
Et pour se procurer le livre « Comment résonne notre cerveau », il est disponible donc aux éditions Que sais-je, la bibliothèque est disponible notamment à la librairie de l'Institut. Merci beaucoup.
Merci.
Canal Académie.